Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Daniel Defer. Ce soir, après la tempête.
Bonsoir Daniel Defer.
Bonsoir.
Vous avez créé Aide en 1984. Vous l'avez présidé jusqu'en 1991. En 1991, vous quittez Aide et vous vous attelez à un autre travail à partir des années 90, qui est l'édition des 10 et écrits de Michel Foucault et puis petit à petit l'édition des cours au Collège de France de Michel Foucault. Et j'ai donné comme titre à ce dernier entretien ce soir, Après la tempête. Est-ce que c'est ce que vous ressentez à partir du moment où Aide est lancé et sur des rails? Est-ce que...
On était encore en pleine tempête, vous savez, on était encore en pleine tempête, parce que mon successeur à la tête de la fédération Aide, c'était Arnaud Marty-Lavoiselle, qui était entré à Aide en 86, je crois, oui, 86.
Qui était psychiatre,
qui était touché lui-même et qui est mort... quelques années plus tard, donc on était encore en pleine tempête et au fond la maladie n'a pas disparu. Je pense qu'il y en a encore pour une génération, et au moins. Et en même temps, disait écrit, on a commencé avant que de la terminaison de ma présidence de Aide, on a commencé. Oh, assez tôt. Si vous voulez, Foucault avait dit dans son testament, un testament qui était déjà un peu ancien, qu'il avait rédigé au moment où il partait en Pologne soutenir Solidarność, en 81 ou 82, début de 82, je pense. Il avait donc écrit un testament dans lequel il n'y avait pas de publication posthume. Il l'avait toujours dit, mais là, c'était écrit dans son testament. Donc, nous savions que nous ne pourrions plus rien publier. Par contre, les choses qui avaient été publiées en ordre dispersé, entretiens, interviews dans le monde entier. Moi, j'ai souvent accompagné dans la plupart des pays du monde, donc je savais à peu près où il y avait des interviews à retrouver. Donc, on pouvait éditer ça, ça n'était pas des posthumes. Et lui-même avait envisagé, avec moi à l'hôpital, il avait dit, tiens, quand je sortirai de l'hôpital, on pourra faire ça ensemble. Enfin, bon. Et puis, comment faire? Bon, exhaustif ou sélectif? On a préféré faire quelque chose d'exhaustif parce que bon, bah, ce serait fait, j'avais quand même assez d'éléments historiques pour les situer. Et puis, Foucault ne dit jamais la même chose, même quand on l'interviewe trois fois sur le même livre, il ne dit jamais la même chose, il précise toujours des choses, il y a toujours à apprendre. Donc, on a fait ce livre, ces quatre volumes originellement, avec François Ewald et Jacques Lagrange. On a fait ces 10 écrits qui ont, je crois, relancé la lecture de Foucault tout à fait autrement. C'était à la fois plus accessible que les livres. Les livres étaient commentés par lui-même. C'était donc une voie d'accès aux livres. Et puis, il y avait toutes les interventions ponctuelles. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement le philosophe, le théoricien, mais il y avait aussi l'intellectuel militant. Et il y avait donc une dimension absolument nouvelle, plus familière et plus politique. Notamment dans des pays comme les États-Unis où la perception politique n'était pas encore faite, ce qui est fait maintenant, ça a été très important. Donc la réception de 10 écrits a renouvelé les lectures de Foucault. Foucault avait dit pas de publication posthume, mais en même temps, il avait laissé ses auditeurs au Collège de France enregistrer ses cours. Alors, au début, il n'y avait pas tellement de moyens d'enregistrement. C'était un agra, donc il y avait un auditeur qui venait avec un agra et avec l'accord de Foucault. Quelquefois, Foucault lui disait, tiens, donne-moi donc le tapisserie pour que je vois un peu si ce que j'ai dit tient la route, tout ça. Tout était écrit, mais enfin, il aimait bien comme il improvisait des choses nouvelles dans l'oralité. Il aimait bien avoir une trace. Donc, il avait laissé enregistrer. Puis, au bout de la troisième année d'enseignement au Collège de France, les gens ont des mini-cassettes. Ça coûte rien. Les premiers qui avaient un agra avaient la mauvaise habitude d'effacer les bandes qui coûtaient cher pour réenregistrer la fois suivante. Tandis qu'à partir du moment où les gens ont des mini-cassettes, ils n'effacent pas, ils conservent. Et il est arrivé, ce qui devait arriver, que peut-être Foucault avait anticipé, j'en sais rien, c'est des éditions sauvage. Alors forcément à l'étranger, puisque en France on n'avait pas de publication posthume. Oui. Alors on a une édition sauvage en Italie qui commence, elle ne nous satisfait pas, parce qu'il y a des choses qui nous paraissent invraisemblables.
Nous, c'est qui ? C'est vous, François Ewald,
qui était son assistant au Collège de France. Moi, Jacques Lagrange, qui avait suivi ses cours et souvent enregistré. On se dit non, ça c'est pas possible, il n'a pas cité tel auteur. Bon. Donc, puis on apprend que le projet d'édition commençait à faire école au Brésil et à Hong Kong. Bon, alors là, on s'inquiète. Comment faire ? L'édition italienne qui était aboutie, qui était déjà faite, le droit français ne s'applique pas en Italie, il n'y a pas encore de droit européen, et un juge qui est saisi, notamment par la nièce de Foucault, qui elle-même est juge, était une femme très, très attentive aux fonctions de médiateur. Et elle nomme un médiateur, qui n'était pas n'importe qui, c'est aujourd'hui quelqu'un d'extrêmement connu qui est décédé, qui est Stéphane Hessel. Stéphane Hessel avait été ambassadeur auprès des Nations Unies pour la défense de la propriété intellectuelle. Donc il savait défendre la propriété intellectuelle, et en même temps il connaissait les relations internationales. Donc il a trouvé cette idée, intelligente d'ailleurs, tout à fait intelligente, c'était d'associer l'éditeur italien à l'édition française de référence, qui en plus était quelqu'un qui n'avait pas de mauvaises intentions, au contraire, qui avait vraiment une grande admiration pour l'œuvre de Foucault, qui voulait la faire connaître et qui trouvait dramatique qu'elle reste enfermée dans des cassettes. Donc on a associé Alessandro Fontana et François Ewald. Moi, je n'ai pas voulu m'associer à cette édition parce que comme il n'y avait pas de publication posthume dans le testament, que j'avais accepté le testament, je voulais donc... simplement, malgré tout, j'y mettais la main en ce sens que je connais bien l'écriture de Foucault et je vérifiais sur les manuscrits la cohérence avec les transcriptions. Donc je suis intervenu au niveau de ces vérifications-là. Bon, et voilà, et on a fait donc ce travail qui n'est pas terminé. Maintenant, 30 ans après la mort de Foucault, il nous reste encore une année de cours que j'ai là à côté, il est en train de travailler dessus. Et ça va sortir en 2015, le dernier volume. Et c'est vrai que ça a considérablement renouvelé la lecture. Parce que d'abord, ces cours étaient extrêmement travaillés, même s'ils sont oraux, et si nous avons transcrit l'oralité, nous avons vérifié tout sur manuscrit, nous avons fait tout le travail de notes de bas de page, qui est considérable, et qui fait que ce sont des livres érudits, donc ce sont davantage les universitaires qui travaillent dessus, et les universitaires produisent beaucoup, plus on produit sur un auteur, plus il est connu et reconnu, et du coup c'est devenu un succès international dans des disciplines les plus inattendues.
Oui.
Hein, aussi bien les économistes qui étudient ces textes sur le néolibéralisme, qu'en sciences politiques, la théorie du genre, ou la théorie des gender studies, et les queer studies, et les gay studies, s'inspirent énormément de Foucault. Et c'est vrai dans des pays aussi différents que la Chine ou les États-Unis. Mais c'est vrai que les États-Unis ont joué un rôle considérable. Ça a été le premier pays qui a vraiment travaillé sur Foucault. Et en travaillant sur Foucault, ils l'ont fait comprendre dans la plupart des autres pays du monde. C'est à partir des traductions américaines qu'il est traduit dans les autres pays. C'est plus tellement à partir du texte français, hélas.
Daniel Defer, vous vivez dans l'appartement dans lequel vous viviez avec Michel Foucault.
Oui.
Qui est un appartement du 15e arrondissement, rue de Vaugirard. Il en est souvent question de cet appartement, il est chargé d'émotions et de souvenirs. Il en est question dans le livre de Mathieu Lindon, Ce qu'aimer veut dire. Paul Venn aussi en parle dans son livre sur Foucault. C'est un appartement dans lequel vous êtes installé en 71, 70.
Oui, à peu près 70, je crois.
Et vous avez rédigé une chronologie pour le premier volume des 10 écrits. Elle est très précise. Et vous écrivez, vous parlez de cette installation, de la découverte de cet appartement. Nostalgique de la luminosité perdue du golfe de Carthage, Foucault s'installe au sommet d'un immeuble à large baie au 285 rue de Vaugirard. Vous pouvez, Daniel Defer, décrire un peu cet appartement ?
Ah, Mathieu Lindon l'a très bien décrit.
C'est un appartement magique, parce que on a l'impression, parce que il y a des portes, on croit que ce sont des placards, en fait non, ce sont des portes qui s'ouvrent encore sur un autre appartement.
Ah bah
il
y a des portes peintes, laquées, c'est là que on a cette photo qui démultiplie la silhouette de Foucault, la photo célèbre d'Hervé Guibert. Et puis alors il y a un placard qui était la porte d'entrée de mon appartement. Donc, il y a un faux placard qui est l'entrée de l'appartement. Il y avait la même chose chez Foucault à Vendeuvre. C'est-à-dire que c'était une maison, une très belle maison bourgeoise, copiée un peu des châteaux. Et il y avait un placard qui s'ouvrait sur une aile qui était l'appartement de Foucault dans la maison paternelle. Et donc là, on a retrouvé un peu par hasard. Oui, alors ce appartement, il est tellement mythique, vous voyez, que je ne suis pas arrivé à le changer. Enfin, il n'est pas meublé comme il était. Mais vous voyez, il se déglingue. Il faut que je le restaure. Et j'ai du mal à le restaurer. Un jour, j'avais amené, vous allez encore rire, un garçon ici. Il m'avait dit, je ne veux pas rester ici, je sens qu'il y a un mort.
Mais vous, vous y vivez, vous l'aimez, cet appartement, tel qu'il est.
J'aimais le mort.
Ouais. C'est oui, un appartement
non.
qui est en...
Non,
sur
c'est-à-dire
Paris.
Que cet appartement, l'avantage qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Et c'est très important de voir l'espace. De voir. Alors c'est vrai que nous étions en Tunisie, à Sidi Bou Saïd, au-dessus du golfe de Carthage, et la vue sur le Bou Cornine, que la petite montagne au bout du golfe de Carthage, c'était magnifique. Alors c'est vrai que nous avions du mal à retrouver la luminosité, tous les appartements qu'on visitait. Et l'appartement que Foucault habitait avant, et où j'habitais avec lui aussi, mais qui était plus étroit, était juste au-dessus du Veldiv. Donc là, c'était une autre symbolique à laquelle Foucault aussi était très sensible.
Lorsque est sorti le livre de Mathieu Lindon, vous avez été gêné de ce qu'il racontait de la vie de Michel Foucault.
Non, moins gêné que par le livre d'Hervé Guibert. Non, le livre d'Hervé Guibert, c'est-à-dire, c'est très différent. Hervé était dans un rapport romanesque avec la réalité, c'est-à-dire qu'il inventait toujours, alors que Mathieu est au contraire dans un rapport de véracité avec la réalité, et par exemple il ne veut pas prêter de mots à Foucault, il n'est pas assez sûr, et dit si je lui prête, on va les lui attribuer, je ne suis pas assez sûr. Il y a une rigueur très très différente dans son rapport à l'écriture, alors que Hervé était au contraire dans l'inventivité permanente. Quand il lui arrivait quelque chose, Foucault lui disait toujours « Mais Hervé, tu sais bien qu'il ne t'arrive jamais rien de vrai. » C'est-à-dire que tout ce qui lui arrivait était déjà une merveilleuse histoire. C'était un romancier né. Et donc, ils ont un rapport très, très différent à la littérature. Mais c'était quand même... Mathieu raconte l'appartement de Foucault quand Foucault n'y est pas. C'est-à-dire que Foucault prêtait son appartement à ses amis qui vivaient un peu leur autonomie par rapport à leur vie familiale. Donc, c'était une expérience que moi, je ne connaissais pas, que je n'ai pas partagée. Et puis bon, ils avaient un rapport à certaines drogues douces que moi j'ai pas, j'aime pas fumer. Il y a que l'opium qui me fait de l'effet et c'est assez difficile à trouver.
Dans votre livre d'entretien, Daniel Defer, vous parlez peu de votre relation avec Michel Foucault. Vous écrivez ceci. La relation intellectuelle que j'avais avec Foucault, une intimité où on analysait tout. Ce n'était jamais de l'anecdote, mais une analyse dont on pouvait tirer une pratique.
Oui, d'ailleurs, je ne le dis pas à propos de Foucault, mais je le dis à propos de Didier Seux, qui était le psychiatre, qui a joué un rôle très important dans Aide, qui m'a beaucoup soutenu, beaucoup aidé, beaucoup apporté. C'est vrai, c'était ça un peu la relation intellectuelle que j'avais avec Foucault. Ce qui était merveilleux avec Foucault, c'est qu'il pensait tout le temps, et il pensait bien tout le temps. C'est-à-dire que c'était tout le temps original. C'était jamais ce qu'on pensait soi. Ça vous décalait tout le temps. Et quand on essayait de penser comme lui, c'est curieux. Moi, je ne verrais pas du tout les choses comme ça. Il avait horreur qu'on veuille se situer dans ses pantoufles. Et il fallait vraiment qu'il décale toujours, qu'il n'est pas de disciple, qu'il n'est pas d'école. Il était sans cesse sur le qui-vive, de ne pas être imité.
Mais il vous arrivait de penser comme lui. Et alors, à ce moment-là, Ça, c'était quand même
possible. Ah, il nous arrivait, si vous voulez, il y a des choses très étonnantes. Là, c'est tout à fait anecdotique, c'est pas de la pensée. Vous n'avez pas vu, mais l'appartement a 3 entrées, cet appartement. Et un jour, je me dis, bon, Michel ne veut pas me déranger dans mes vacances, nous passions nos vacances chacun de notre côté, lui chez sa mère à Vendeuvre, et je lui dis, bon, je pense qu'il va rentrer à tel moment à Paris, donc je vais rentrer un jour avant pour préparer l'appartement. Et j'arrive par une porte, et au même moment, il arrive par l'autre porte, ayant fait le même raisonnement que moi. Il venait me préparer l'appartement. Alors, vous voyez, je dis, c'était difficile de penser comme lui. Non, mais il y avait quand même des simultanéités curieuses au niveau des affects.
Pourquoi dites-vous, Daniel Defer, dans les entretiens qui ont été publiés, que vous n'êtes pas un intellectuel ? Dites-moi, je ne suis pas un intellectuel. J'en aime le mode de vie, mais je n'en suis pas un.
Oui, mais... oui, je me suis jamais défini comme un intellectuel, même si, d'une certaine façon, j'ai quand même vécu du savoir et de la diffusion du savoir. Mais je suis quand même un intellectuel. C'est quand même quelqu'un qui invente des pensées ou qui s'articule à des enjeux. Moi, j'estime que les enjeux auxquels je me suis articulé, c'est des enjeux vitaux. C'est ce que j'expliquais, quand l'émotion que j'ai eue en découvrant que les détenus étaient des anciens de la DAS. C'est des enjeux vitaux, c'est pas des enjeux intellectuels, c'est enraciné autrement dans mon histoire. Donc, je vous ai dit, mon père était malade dans mon enfance, la maladie, tout ça. J'ai l'impression que ce n'est pas des choix intellectuels, ce sont des choix que... Bon, j'ai eu un métier d'intellectuel qui était d'être prof, mais bon, c'est un métier aussi, il y a un savoir-faire, il y a un savoir. Je ne suis pas intervenu sur les problèmes du monde, à part les petits problèmes que j'ai rencontrés, les petits problèmes comme l'épidémie, ça, bon, la guerre d'Algérie. Mais c'était la guerre d'Algérie, c'était ma génération, il fallait le faire. Bon, je m'aperçois pas comme un intellectuel, c'est pas par mépris de l'intellectualisme, non, pas du tout, mais j'estime que j'étais ancré autrement dans l'histoire, par un métier, par des affects, et que d'une certaine manière, quand j'ai dit une vie politique, c'était un peu par dérision. C'était pas une vie politique pour moi, c'est une vie qui s'est trouvée traversée par la politique, mais à un niveau assez vital.
Vous lisez de la fiction, Daniel Defer ? Je suis curieuse de savoir si un sociologue lit de la fiction.
Alors moi, pas du tout.
Vous ne lisez pas de romans ?
Ah, des romans,
oui,
si.
Oui, pas de la science-fiction.
Ah non, la science-fiction, impossible.
Des romans.
Jules Verne, oui, dans mon enfance, Jules Verne, oui. Non, des romans, bien sûr. Mais malgré tout, je suis quand même plus porté vers les essais, à part Proust.
Lorsque vous dites, Daniel Defer... Regardez, on est passé de l'interdiction de la vente libre de préservatifs au mariage pour tous. Donc vous vous réjouissez de ça, vous ne vous dites, il n'y a pas en vous un mouvement, vous dites quand même c'est rentré dans le rang.
Le rang. Je trouve les gens qui disent ça ne voient pas vraiment ce qui s'est passé. Parce que vraiment, c'est pas consolidé. Le mariage bourgeois, c'est radicalement problématiser l'institution. Alors, bien sûr, il y a des gens qui peuvent le vivre. Je veux dire, bon, quand je vois deux filles se mettre une robe blanche, ça m'amuse, mais c'est comme quand je vois deux mecs s'habiller en bonne sœur pour faire du militantisme. Bon, ça me paraît du même niveau. Je trouve ça de la dérision et pas du conformisme, quoi.
C'est-à-dire problématiser l'institution, le mariage.
Oui.
Et
oui, problématiser l'institution du mariage. Quoi. Véritablement, la naturalité, tout ce travail juridico-théologique qui a été articulé à la différence des sexes comme fondement du mariage et de la famille. Si vous voulez, c'était quand même, pour moi, l'expérience du sida a été quand même cette chose très très importante où on a pu exprimer, où les gens ont pu voir, les médecins dans les hôpitaux, les politiques ont pu voir l'intensité des affects, l'intensité de l'amour que les gens se portaient les uns aux autres. On avait tendance à ne faire de l'homosexualité que de la sexualité, et on tolérait là-dessus des lieux, comme disait Claudel, il y a des maisons de tolérance. Eh bien, on tolérait comme ça, on tolérait les backrooms, les saunas et tout un ensemble de lieux, mais on ne voulait pas entendre parler des affects. Et les gens ont été confrontés à des affections, des présences auprès de mourants, des accompagnements de mourants qui ont été faits par un compagnon ou par quelques compagnons. Le nombre de gens de volontaires de aide qui ont été présents auprès de mourants, ça c'est quand même quelque chose qui a été une expérience que les gens n'avaient jamais anticipée. Moi, les médecins me l'ont raconté, combien ils avaient été surpris. Quand les familles abandonnaient leurs malades, qui y avait autour d'eux? Ça a été quand même une dimension complètement autre qui a été découverte.
Y compris pour les aussi pour les homosexuels. Enfin, elle a été découverte pour tout le monde, non?
Je pense qu'elle est devenue manifeste pour tous. Ça a été une expérience publique. Autant la sexualité avait été de l'ordre du privé, autant d'un seul coup, ces affects sont entrés dans l'ordre public.
Le mariage, vous avez dit, ça problématise l'institution, mais le mariage, c'est pas, ça marche pas si bien que ça. Enfin, le mariage.
Oui, mais si vous voulez.
Le divorce.
Oui, de toute façon, c'est pas pour consolider la famille, c'est pour la problématiser. Je veux dire que ce sur quoi on a fondé notre ordre social est remis en question. De même que l'ordre biologique est remis en question par les technologies médicales qu'on a aujourd'hui. Je vois pas. On peut greffer un cœur, on peut greffer un foie et on peut pas greffer un foetus. Enfin bon, les gens sont incroyables. Il y a vraiment un cheminement à faire pour intégrer nos techniques. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé. Et je pense que, tout ça est en cours.
Vous aimez bien, Daniel Defer, l'époque contemporaine? Vous trouvez qu'avoir 20 ans, donc vous aviez 20 ans à la fin des années 50.
C'est toujours agréable d'avoir 20 ans, il faudrait l'avoir
plus
souvent.
Mais maintenant, est-ce que vous trouvez le sida, vous avez dit, il y en a encore pour une génération. Est-ce que vous aimez bien l'époque que vous vivez actuellement?
Oui, je ne crois pas que j'aurais aimé vivre à une autre époque. Mais alors, il y a une chose très curieuse, c'est que moi, ce bouquin, les gens jeunes qui l'ont lu m'ont dit « c'est fou ce que l'époque a changé ». Et ça, je ne l'avais pas réalisé.
Qu'est-ce qu'il donne comme exemple?
Alors, il donne comme exemple qu'ils ne se sentent pas mobilisés par des causes, qu'ils se sentent enfermés dans leur individualité, que Internet les met en réseau avec des gens, mais c'est abstrait. Et je croyais justement que ces réseaux dont on parle tant, c'était mobilisant, c'était unificateur. Rassemblement, il semble pas. Les gens sont incroyablement à distance et enfermés dans leurs fantasmes. C'est pas les affects que nous avons vécus solidairement. C'est vraiment de l'intimité partagée sans solidarité. En tout cas, je suis très très frappé des réactions des quelques personnes qui ont 30 ans qui m'ont dit c'était bien cette époque-là. Je disais merci, mais on n'est pas, c'est encore présent puisque je suis encore là. Et donc, c'est pas un livre du présent, alors que pour moi ça l'était. J'ai senti que les plus jeunes le lisent comme un récit historique. Bon, je sais bien que je vais avoir un âge avancé.
60. Vous avez 76 ans, 77.
Je crois que je vais avoir 77 ans prochainement, oui.
Et cette époque-là, Daniel Defer, c'était cette solidarité, ils font référence à la création d'aide.
Oui.
Et vous, est-ce que c'était encore une autre époque que l'époque à laquelle vous avez rencontré Michel Foucault, 1960? Vous aimiez la musique que vous écoutiez, la sociabilité de ces années-là?
Je vais vous dire, j'ai pas une bonne oreille. Et j'étais sensible à ce que la musique a apporté à la culture. Je veux dire, le rock a apporté à la culture de ma génération, ça n'est pas dissociable de l'usage des drogues, de la problématisation du genre et de la sexualité. C'est vrai que quand je vois Bowie, mais je le voyais hier soir, il avait quand même pris un sacré coup de vieux, et toute l'équipe des Rolling Stones, j'adorais les Rolling Stones, c'est vrai, plus que les Beatles, c'était quand même trop jeune pour moi. Ils ont porté toute une culture, et le sida était indissociable de cette culture-là. Mais c'est vrai que j'ai communiqué davantage par la littérature que par la musique. Et la littérature, ben, c'est pas absolument une sociabilité, c'est quand même quelque chose d'un peu privé. Bon, j'ai été à des grands concerts, des Rolling Stones, d'Eric Clapton, tout ça, de Bowie, que j'aime beaucoup. Mais bon, je ne pense pas que j'ai participé à toutes les formes de sociabilité qui ont marqué mon époque. J'ai été sans cesse très proche de mes contemporains et un peu à côté. Mais je pense que c'est un sentiment que tout le monde doit avoir. C'est-à-dire que quand on vous raconte votre époque, vous avez l'impression que vous n'êtes pas tout à fait dedans. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance avec Foucault d'être au plus près de la pensée. Mais en même temps, vous savez, je m'amuse quelquefois à dire « je n'ai pas rencontré Michel Foucault ». Avant, en 80, parce que la personne que j'ai rencontrée en 1960, c'était pas Michel Foucault. Je veux dire, c'est en Californie, je me rappelle toujours, je visitais San Francisco avec un guide urbaniste. Et en visitant, il me dit, ah, j'ai été le guide, c'était le même qu'il avait choisi, j'ai guidé Foucault dans San Francisco, et je savais pas que c'était une star. Et je lui dis, oui, tout le monde lui demandait des autographes dans la rue. Et moi, j'étais sidéré. Je n'avais pas du tout réalisé cette transformation de statut. Et c'est vrai que je vivais dans une époque à côté de quelqu'un qui en donnait les clés. Mais il les donnait les clés un peu en avance sur elle-même. Hein, l'histoire de la folie, ça, il écrit dans les années 55-60. J'assiste à sa soutenance de thèse en 61 à la Sorbonne. Mais le succès énorme du livre, c'est surtout après 68. Donc il est toujours un peu en avance avec ses écrits. Donc l'époque nous rejoint plus que nous vivons l'époque. C'est ça un peu le sentiment. Donc je peux raconter l'histoire sans être sûr d'y avoir tout à fait participé.
Merci beaucoup, Daniel Defer.
Fin de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Daniel Defer. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Yves Lehor. Réalisation, Laetitia Coya. Coordination, Sandrine Trainer. Lundi prochain sur France Culture, une nouvelle rencontre.